baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour l'émission sur la France au XVIIe, baroque ou classique. Alors, dans les trois premières émissions, Philippe Frétinier, qui est notre invité pour l'ensemble de la série, nous a parlé du baroque comme d'une question, beaucoup plus que comme un moment ou comme un genre. C'est-à-dire que, Philippe Frétinier, ce que vous nous avez dit, c'est que finalement, cette manière de regarder les choses, cette manière d'appeler un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'œuvres, de les qualifier de baroque, n'était pas forcément quelque chose d'extrêmement pertinent. Alors pour ça, vous nous avez rappelé que le baroque n'est pas réduit à simplement le domaine de l'architecture ou celui de la musique, qui sont les deux domaines dans lesquels la plupart du temps, à propos desquels plutôt la plupart du temps, on parle de baroque, bien sûr, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus vaste qui concernait tous les arts, mais pas seulement les arts, la culture en général, voire même un moment de civilisation. Bon, pour réaborder donc cette question, pour élaborer cette question, en faire une question au lieu de simplement se contenter d'une dénomination de baroque, vous avez utilisé une méthode qui est issu du structuralisme. Alors on peut reprendre un tout petit peu peut-être la question du structuralisme en disant que, contrairement à d'autres démarches d'études scientifiques ou historiques, le structuralisme s'intéresse à un ensemble, à un moment, à des facteurs qui déterminent justement un moment dans une civilisation donnée. Lévi-Strauss l'a fait à propos de sociétés dites primitives, mais on peut l'appliquer à tout un tas d'autres situations, à toutes les autres situations, puisque justement le structuralisme n'est pas disciplinaire et n'est pas non plus réduit à un ensemble factuel. C'est-à-dire qu'on essaie de déterminer des grands facteurs d'évolution. Et c'est ça que vous essayez de cerner dans vos travaux sur le baroque. Qu'est-ce qui a amené à parler de baroque? Et puis quels sont les champs où cette question va s'exprimer? Alors, il est peut-être important de revenir sur l'autre élément de cette série d'émissions, c'est-à-dire que cette question, vous la posez dans un contexte historique et géographique donné, c'est la France au XVIIe siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, même si vous l'avez fait déjà avec quelques traits dans les trois premières émissions, nous donner un panorama un peu plus précis de ce qu'est la France au XVIIe siècle?
Oui, je me suis limité, pas seulement pour cette série d'émissions, mais même sur le travail que je fais, je me suis limité au baroque en France parce que la France a ceci de particulier avec l'Angleterre d'une certaine façon. J'y reviendrai quand on abordera la question de la littérature. Mais c'est le pays qui a le plus de problèmes avec la notion de baroque. Oui, alors on pourrait considérer que je me suis limité en m'intéressant particulièrement à la France. Mais je l'assume tout à fait. D'abord parce que c'est un sujet déjà très vaste en lui-même. Mais si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, hormis l'Angleterre, il faut faire un petit peu l'historiographie des termes en question. On s'aperçoit que dans tous les autres pays, la question baroque classique n'existe pas. On parle du XVIIe comme d'un âge baroque, que ce soit dans l'historiographie allemande, italienne, dans beaucoup d'autres pays. Et le seul pays continental, en tout cas, dans lequel on parle de classicisme pour le XVIIe, c'est la France. Il y a eu très longtemps une sorte de quasi-réticence à parler du baroque en France. C'est assez récent. Je signale par parenthèse que une des toutes premières mentions, c'est pas la première, mais une des toutes premières mentions du terme baroque, c'est Rousseau qui le fait dans un supplément d'un article sur la musique pour l'encyclopédie, où il parle de Rameau et il ne comprend pas ses dissonances. Enfin, donc il parle de cette musique comme étant baroque dans le sens irrégulier, dans une acception péjorative. Alors par parenthèse, c'est un petit peu, comme on dit familièrement, l'hôpital qui se moque de la charité, parce que on peut pas dire que Rousseau, comme musicien, auteur du Devin de village, est particulièrement brillé. C'est une musique plutôt naïve. Et il est en train de parler, quand il dit ça, il est en train de parler d'un des plus grands musiciens français, d'un grand génie de la musique française. Je ferme la parenthèse. Pour prolonger sur justement cette question de l'historiographie qui surgit véritablement au XIXe siècle. Alors il y a des ouvrages célèbres, deux au moins que je vais citer, qui ont vraiment constitué un tournant et qui ont introduit vraiment la conception du baroque dans l'histoire de l'art. C'est le livre sur le baroque de Jenny Odors. Donc on est dans la seconde moitié du 19e siècle, et puis ensuite celui de Wolf Lind. Donc c'est plutôt l'historiographie allemande au départ, hein, qui introduisent ces concepts.
Alors justement, si on vous suit bien, cette notion d'irrégularité qui est rattachée à la question du baroque va en France s'opposer au classicisme qui justement lui est réputé comme extrêmement régulier, donc lié à un esprit français, quelque chose comme ça.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer, justement, à la lumière de ces catégories qui apparaissent, l'irrégularité baroque et la régularité classique, que le baroque n'est pas régulier. Et que, par exemple, donc, ça voudrait dire, si on poussait le raisonnement presque jusqu'à l'absurde, que la symétrie n'est pas présente dans le baroque. Si vous regardez les façades des églises romaines du XVIIe, à partir de l'église du Jésus par le Vignole pour les jésuites, on y reviendra dans la question de l'architecture, vous voyez bien que les façades sont symétriques. Et je vais même pousser plus loin, je vais prendre l'exemple de Saint-Charles des Quatre Fontaines du Borromini, qui est une façade particulièrement mouvementée en courbe et contre-courbe, où là on pourrait éventuellement se dire, oui, on peut employer le terme de baroque, pas dans le sens irrégulier, mais dans le sens d'un mouvement plus, peut-être d'une dynamique plus importante que dans l'esthétique classique, où justement c'est surtout l'ordonnance et la géométrie qui prédominent. Mais même dans cette façade du Borromini, Borromini étant vraiment l'exemple même de l'architecte avec le Guarini à Turin, celui qui entre autres fait l'église du Saint-Suaire, on pourrait dire, voilà, ça ce sont vraiment des exemples du baroque. Et pourtant, il y a de la symétrie, parce que dans les façades en architecture, que ça soit les façades que d'aucuns pourraient qualifier de baroque, ou les façades que d'aucuns pourraient qualifier de classique, il y a cette même symétrie. Donc on voit déjà que, vous voyez déjà la première difficulté de ces termes. Ça s'est doublé en France dès l'époque. Dans la littérature, on le verra, la France a ceci de particulier. Je vais revenir par ce biais d'ailleurs à la présentation du paysage historique français. À ceci de particulier qu'elle a toujours fonctionné par attraction-répulsion par rapport à des centres qui lui étaient extérieurs. Par exemple, à la Renaissance, bon, la grande révélation, c'est surtout d'ailleurs Charles VIII, hein, le voyage en Italie de Charles VIII lors des guerres, où il descend jusqu'à Naples. Hein, c'est le roi français qui descend le plus bas en Italie. Alors il tombe amoureux fou de l'Italie. Dans une émission précédente, je questionnais l'idée qu'on nous avait enseigné la Renaissance, la redécouverte de l'Antiquité. Le corollaire, c'était souvent François Ier qui fait venir les artistes à Fontainebleau. Mais en fait, le premier souverain impressionné par l'Italie, c'est Charles VIII, c'est confirmé par Louis XII, et puis ensuite François Ier. Que fait François Ier? Justement, il fait venir des artistes italiens à la cour. Alors, il y a deux explications, parce qu'il faudra garder en tête ces deux explications, parce qu'elles vont perler tout au long de la période baroque classique. La première, c'est vraiment la révélation de l'art italien, qui, d'une certaine façon, est plus moderne, entre guillemets, que ce qui se passe en France. Alors il y a des circonstances historiques, notamment l'épisode très long de la guerre de Cent Ans qui a un petit peu stérilisé le champ culturel. Si vous regardez bien, après le XIIIe siècle, il va falloir attendre le XVe siècle pour que l'architecture religieuse et palatiale redémarre en France, parce que entre-temps, on construit surtout des édifices militaires.
Oui, puisque c'est la nécessité entre la France et l'Angleterre. Voilà. Voilà.
Alors l'Italie n'est pas une oasis de paix comme sans à-coup, mais c'est vrai qu'en Italie, l'Italie pendant ce temps-là fait son chemin. Donc il y a évidemment ce choc d'une modernité, on dirait aujourd'hui, j'aime pas le terme, mais je vais l'employer par concision. Et puis en même temps, justement par ce que je viens de dire, on ne dispose pas forcément des artistes. Quand par exemple François Ier fait venir le Primatis et le Rosso à Fontainebleau, donc c'est ce qu'on appelle la première école Bellifontaine, hein, C'est aussi qu'on n'a pas de peintre d'histoire capable de brosser les grands tableaux historiques qui vont décorer la fameuse galerie. D'ailleurs, ça va se poser même avec la deuxième Renaissance Bellefontaine. Donc on est obligé d'aller chercher des artistes à l'extérieur. Et en même temps, cette fascination, donc répulsion, pose problème. C'est-à-dire qu'on est sensible à ce qui vient d'ailleurs, on en comprend la beauté et l'intérêt. Et en même temps, il y a cette préoccupation de l'affirmation d'une identité, l'idée d'un État-nation déjà, plus prégnante en France et en Angleterre. L'Angleterre vraiment, pas la Grande-Bretagne, hein, puisque la Grande-Bretagne, à ce moment-là, n'existe pas. Hein. Mais ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, puisque bon, l'Italie, c'est une succession, on pourrait dire par comparaison avec la Grèce, de cités-États au fond. Hein. L'Allemagne, c'est regroupé dans le Saint-Empire romain-germanique, mais en fait, c'est une succession de royaumes qui d'ailleurs, dans l'acception française, correspondrait dans certains cas plus à des duchés, des grands duchés que des royaumes. Donc en France, il y a cette préoccupation d'affirmation de l'État et d'une identité nationale. Ce qui fait que, bien qu'étant nourri par des apports de l'extérieur, on va essayer de les intégrer, de les digérer, d'en faire quelque chose de national. L'exemple le plus intéressant au XVIe siècle, c'est dans l'architecture, avec Philibert Delorme, qui crée un ordre français. Il n'y a qu'en France qu'on connaît ça. Alors, je précise pour les auditeurs.
La notion d'ordre, d'ailleurs, est importante.
Mais dans tous les sens. Oui. Il y aurait beaucoup à dire sur la notion d'ordre. On y reviendra dans le cadre de l'architecture. Alors, je précise pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un ordre. Je suppose que beaucoup le savent, mais je vais quand même le préciser. C'est un système de proportions avec un système de colonnes, avec des types de chapiteaux. Donc c'est système de proportions et système d'ornement qui viennent tout droit de l'Antiquité et qui sont remis sur le devant de la scène au XVIe siècle dans le cadre justement de ce nouvel élan, et non pas de cette redécouverte, de ce nouvel élan vers l'Antiquité à travers des tas de traités. Là aussi, toujours, j'y reviendrai dans le cadre de l'émission sur l'architecture.
Alors, on va préciser des choses sur le XVIIe en France, mais juste avant ça, un interlude musical. Donc, je vous laisse en parler, parce que, juste encore une fois, il ne s'agit pas de musique baroque, mais de musique romantique.
Bah, c'est la 11e danse hongroise, mais jouée à quatre mains par deux frères, deux musiciens absolument exceptionnels, vous allez pouvoir en juger, qui s'appellent les frères Kontarski. Thank you.
sur Radio Grand Ciel et nous écoutons Philippe Frétinier qui nous explique la question du baroque et du classique dans la France du XVIIe. Alors justement, Philippe Frétinier, la France au XVIIe, c'est quelque chose qui va en gros de Henri IV à Louis XIV,
oui, alors faut que je précise
en passant par quelques autres moments dont vous nous disiez dans une émission précédente que c'était celle d'un pouvoir faible, mais vous vouliez nuancer ça parce que pendant ce pouvoir royal faible, il y avait des hommes forts qui étaient très préoccupés de la question artistique.
Exactement. Oui. Alors, ça n'aura échappé à personne que j'ai fait démarrer le XVIIe avec Henri IV, alors que l'essentiel de son règne a lieu sous le XVIe siècle. Mais vous voyez, ça montre bien d'ailleurs, justement, ça met en œuvre d'ailleurs des questions d'épistémologie, parce que qu'est-ce que c'est qu'une ère et quand la fait-on démarrer et quand la fait-on cesser ?
Mais c'est pas forcément une question d'arithmétique et de 2-0 après.
Voilà. Et pourquoi je mets Henri IV comme point de départ du XVIIe ? Parce qu'il y a vraiment ce tournant dans l'architecture. D'ailleurs, pas que dans l'architecture, mais ça se remarque particulièrement dans l'architecture qu'on peut toujours voir aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment la première volonté royale d'un projet d'urbanisme pour affirmer, au fond, la puissance de son règne. Hein, je crois avoir cité les exemples de la place des Vosges et de la place Dauphine.
C'est une habitude française qui a perduré bien longtemps, jusqu'à aujourd'hui même, peut le dire.
Oui. Donc, voilà. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de la propagande, d'une certaine façon, enfin, de l'art officiel, entre guillemets, parce qu'il faudra mettre des codicilles en matière de peinture, notamment d'architecture, mais de Louis XIV. Alors, Louis XIV n'est pas le premier souverain à utiliser l'art pour le mettre à son service, mais c'est lui qui va le faire de façon systématique et absolument réfléchie. Donc ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y ait pas eu des visées, par exemple, de la part d'Henri IV. Entre les deux, donc il s'agit de la régence de Marie de Médicis et du règne de Louis XIII, c'est vrai que Louis XIII s'est moins intéressé à la question, n'a pas systématisé un langage autour d'une articulation du discours royal avec les arts comme Louis XIV va le faire. Mais il y a des hommes forts, en l'occurrence Richelieu et Mazarin, qui, eux, comprennent le parti qu'ils peuvent tirer pour renforcer leur position en se posant comme protecteurs des arts. Alors, en plus, dans le cas de Mazarin, c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est un nouveau lien qui se crée avec l'Italie. On pourra en parler, si j'ai le temps, en faisant une incise sur les arts du spectacle, parce que c'est très intéressant ce qui se passe dans tout ce qui tourne autour du spectacle, du faste, de la pompe au XVIIe. Parce que c'est un lieu de l'éphémère où là, la France est le plus baroque d'entre tous les pays. Mais comme par hasard, c'est dans le champ de l'éphémère. Donc il y a quelque chose à travailler autour de cette question-là. Mais dans le cas de Mazarin, c'est vraiment intéressant parce que justement en Italie, on le verra aussi avec la question de la littérature, il y a vraiment cette question, puis en Espagne aussi d'ailleurs, du théâtre. D'ailleurs, la littérature va parler du théâtre du monde. J'y reviendrai dans le cadre de la littérature. Donc c'est un théâtre qui montre aussi comment il est fait, qui montre comment ça se passe sur la scène. Hein. Ça, c'est quelque chose de très particulier au baroque. Donc cette période de la régence et du règne de Louis XIII, c'est quand même un épisode qui est traversé de soubresauts. Il y a entre autres, tout le monde connaît les suites des guerres de religion avec le siège de La Rochelle par Richelieu. Donc c'est pas une période facile. Et puis Mazarin va être très contesté, au fond, par une sorte de fronde avant la lettre.
Oui, c'est vrai que dans l'histoire, on retient Richelieu est toujours porté au nu ou à quelque chose près, alors que Mazarin est un personnage considéré comme beaucoup plus trouble.
Oui, puis finalement, il va avoir vraiment à faire face à la fronde. Je dis fronde avant la lettre parce que dès le départ, l'aristocratie française va très mal accepter l'arrivée de ce nouvel acteur de la politique française, et ça va aller jusqu'à la fronde, qui va d'ailleurs être un événement marquant pour Louis XIV, Il y a l'épisode de quand il a 5 ans, ils sont obligés de quitter le Louvre en catimini, ils vont se réfugier au château de Saint-Germain où il n'y a même pas de quoi coucher, ils couchent dans la paille. Et Louis XIV n'oubliera jamais ça, ce qui va déterminer son rapport avec Paris et avec le politique. Donc, c'est une période donc assez complexe où émerge un art. Alors, qu'on voit surtout dans les arts décoratifs. Il y a eu une très belle exposition sur un temps qui se situe après, mais qui prend ses sources dans ce moment-là, les arts décoratifs sous Anne d'Autriche et Mazarin au Grand Palais. On est en fait sur quelque chose qui est à cheval entre ce qu'on hérite de la Renaissance, qui est une période d'inventivité, j'aime employer le terme d'efflorescence pour qualifier la Renaissance, en tout cas dans les arts décoratifs, mais on peut le dire aussi dans d'autres domaines. Et en même temps, c'est très à la mode le « en même temps » aujourd'hui, hein, mais en même temps, tout cet apport qui arrive de l'Italie par différents biais, et notamment par des acteurs comme Mazarin, des amateurs d'art, c'est l'époque du mécénat, c'est vraiment le début du mécénat qui commence. Parce que ça correspond aussi, ça d'ailleurs c'est une constante dans l'histoire des arts. En général, il n'y a pas de période d'épanouissement de l'histoire des arts sans d'abord un épanouissement économique. Hein, c'est vrai de l'Espagne de Philippe II, c'est vrai des Pays-Bas dans la première moitié du XVIIe. D'ailleurs, il y a dès que ça sera plus le cas, il y a des artistes qui vont faire les frais, comme par exemple Vermeer. Hein, donc,
c'est-à-dire qu'au XVIIe, la France n'est plus pressée comme un citron par les nécessités de la guerre de Cent Ans. Enfin, ça, c'est du passé, et il va y avoir la possibilité d'investir ailleurs, même si, encore une fois, ça n'est pas une période de paix.
Non, mais c'est vrai que c'est quand même un début de prospérité. Puis, la France monte sur les premières marches du podium de la puissance économique. Hein. Alors, ça va se faire en dents de scie, c'est-à-dire que à la fin du règne de Louis XIV, à cause des guerres qui se sont multipliées, il y a un moment difficile, hein, qui va, et puis la France va rebondir sous Louis XV, où ça va devenir la première puissance. On pourrait dire que la France au XVIIIe, c'est les États-Unis ou peut-être même la Chine d'aujourd'hui. C'est le pays le plus peuplé d'Europe, plus de 20 millions d'habitants. C'est la première puissance économique. Bon, et à la fin du règne de Louis XV, ça va à nouveau connaître des à-coups qui vont conduire aux difficultés que Louis XVI rencontrera, et on connaît la suite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans cette période-là, où rien n'est affirmé, pendant que j'y pense, je fais une incise, hein, les auditeurs me le pardonneront, mais pour avoir une idée, par exemple, dans les arts décoratifs de ce qui se passe, de l'inventivité, presque du brin de folie qui a soufflé, il suffit de se rendre dans la galerie d'Apollon au Louvre, où il y a des objets d'orfèvrerie qui sont exposés, et les gens seront frappés, ceux qui ne les connaissent pas, seront frappés par l'abondance et la variété des formes, des couleurs vives dans les pièces d'orfèvrerie qui sont exposées. Ça donne une occasion d'ailleurs de voir, une autre petite incise, mais je résiste pas au plaisir, de voir le talent de Delacroix, parce que cette galerie, contrairement à la galerie des glaces, qui, elle, a été terminée. La galerie d'Apollon n'a jamais vraiment été terminée. Et donc, au XIXe siècle, on va demander à Delacroix de finir, de décorer la voûte, le plafond de la galerie d'Apollon. Et si vous allez aujourd'hui dans la galerie d'Apollon, vous verrez que ça fonctionne très bien ensemble. Je ferme la parenthèse. Un petit hommage à Delacroix.
Oui, alors, pour peut-être un peu conclure sur cette France au XVIIe siècle, on peut dire qu'il y a, sans que ce soit une période vraiment dorée, une vraie prospérité économique qui arrive là et qui n'était pas du tout présente auparavant. Et ça donne l'occasion à un développement très très important des arts sous l'impulsion de ces rois et personnages puissants comme Richelieu et Mazarin. En quelque sorte, c'est quelque chose comme ça qui va se passer.
Oui, oui, absolument. Alors, Richelieu est sûrement, d'une certaine façon, le prédécesseur de Louis XIV, en ce sens que très vite il a l'idée d'essayer d'encadrer les arts au service d'une volonté politique. L'acte fondateur de cette idée, c'est la fondation de l'Académie française en 1635. Alors, ce n'est pas indifférent que ça soit Richelieu et la date, parce que c'est au moment où il y a vraiment un moment baroque en France, et en fonction de cette toujours volonté de franciser, il y a une réaction en créant l'Académie française. Mais on y reviendra sur la
question. Oui, parce que l'Académie française, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, on parle de littérature. Enfin, on parle de lettres, en tout cas. Et c'est par là que les choses vont commencer, ce dont on parlera dans la prochaine émission. Mais pour conclure cette émission, je crois que vous avez un moment de musique baroque à nous proposer cette
oui,
fois.
Oui, oui, oui. Là, il s'agit de La folie d'Espagne par Vivaldi. Alors, la folie, c'est un thème qui revient, c'est pas le seul, mais dans la musique baroque, il y a des thèmes qui reviennent et dont les différents compositeurs s'emparent au fil du temps. Donc, chacun donne sa version à partir d'un même thème. Donc là, c'est La folie d'Espagne par Vivaldi.
Thank you.